Je voudrais simplement vous partager quelques petites choses sur des textes du Père Marie-Eugène sur la miséricorde dans sa manière de lire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai eu l'immense honneur d'être dans les premiers à faire un mémoire au studium. Donc, tout le monde était très bienveillant, on avait des bonnes notes à cette époque-là, facilement. Et donc, voilà, je veux vous partager un peu quelques brides de ce travail. Je pense que ce que le Père Marie-Eugène dit de la miséricorde a quelque chose, je pense, d'original. Alors, je ne vais pas faire du tout un travail comparatif avec d'autres auteurs qui ont étudié Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que ça n'était qu'un mémoire de licence et non pas une thèse de doctorat, et heureusement pour moi. Voilà. Donc, voilà, ça sera très centré sur des textes du Père Marie-Eugène, écrits ou inédits. Alors, en ce moment, il y a tout un travail de relecture de ces textes inédits qui doivent passer par une commission critique. Eh bien, ceux-là ne sont pas passés, donc vous pouvez prendre des notes, mais ne citez pas tel quel ce que je citerai, parce que peut-être qu'il y a des petites corrections pour être au plus près de ce que le Père Marie-Eugène a dit. D'abord, je vais commencer par une première partie assez simple sur le lien entre le Père Marie-Eugène et Thérèse. C'est que c'est l'histoire d'une amitié et qui s'appellent tous les deux, ils ont le même nom de famille, de l'enfant Jésus. Et que s'ils s'appellent tous les deux de l'enfant Jésus, c'était bien un choix qu'a fait le Père Marie-Eugène à cause de Thérèse. Il écrit à sa sœur, Berthe, c'est en 1922, au moment où donc il entre au noviciat, il reçoit son nom de religion, Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, et il écrit à sa sœur, « Nous serons tous deux de l'Enfant Jésus, frères désormais complètement. » Thérèse sera béatifiée l'année suivante. Elle est encore sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans une homélie en 1962, il dit que c'est une amie d'enfance qui a vécu auprès de nous et à mesure que nous grandissions, nous faisait des confidences, nous montrait les secrets de son âme. Voilà, cette proximité avec Thérèse, c'est une proximité aussi qui, surtout au niveau de cette découverte de la miséricorde chez Thérèse, dont elle a donné une part au Père Marie-Eugène. Et dans « Je veux voir Dieu », il écrit « Il nous paraît que nous l'avons connue, tellement nous réagissons et parlons comme elle. » Dans une lettre à un ami séminariste, en 1923, non, il est devenu prêtre déjà à ce moment-là, en 1923, au moment de la béatification, il écrit à cet ami que l'histoire de la vie, l'histoire de sa vie, de Thérèse, est son manuel de spiritualité depuis bientôt 15 ans. Donc c'est intéressant, c'est que son lien avec Thérèse, c'est un manuel de spiritualité. C'est pas d'abord la Thérèse qui donne des grâces, la pluie de roses, dont il a bénéficié beaucoup aussi, mais en fait son premier contact avec Thérèse, ça a été avec ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit. Et depuis bientôt 15 ans, ça veut dire que ça remonte aux années 1908. Henri Grialoux a 13 ans. Il est au petit séminaire de Graves, en Aveyron, dans le diocèse de Rodez. Et il lit « La rose effeuillée ». Il écrit à un ami « Aucun livre n'a jamais fait tant d'impression sur moi que celui-là. » Donc, 11 ans après la mort de Thérèse, Henri découvre et se met à son école. Bon, je passe rapidement aussi sur la guerre de 14-18 qu'il a vécu au front à Verdun et dans laquelle il fait l'expérience de la puissante protection de Thérèse. Elle arrête les balles, dira-t-il, un peu comme le père Brottier, il fait vraiment l'expérience de ce regard bienveillant de Thérèse sur lui. Et puis, je reviens sur la béatification en 1923. Il dit que c'est un des plus beaux jours de sa vie. Il est carme à ce moment-là. Sa canonisation en 1925, et puis 2 ans après, un an après, le doctorat de Saint Jean de la Croix. Tout cela va être pour lui l'occasion de prêcher sur Thérèse. Il va prêcher des triduums, des séries de conférences dont il écrit le texte. Plus tard, il donnera beaucoup de conférences dans lesquelles il avait très peu de notes, mais là, on a encore les textes relus par lui. C'est très intéressant de voir comme déjà dans ces textes de 1923-1925, il y a déjà toutes les intuitions qu'il va développer ensuite sur l'enseignement de Thérèse. Puis arrive la naissance de l'Institut Notre-Dame de Vie, et en 1932, dans la chapelle de Notre-Dame de Vie, il prêche la première retraite. Il y a quoi? Il y a 5-7 personnes dans cette chapelle à écouter cette retraite. Il pose les fondements de ce que sera l'Institut. Pour le moment, ce groupement est complètement informe. Mais voilà ce qu'il dit au sujet de Thérèse. Quel est notre devoir en face de cette mission? C'est d'entrer en plein dans le mouvement qu'elle anime, dans la lumière qu'elle nous donne. Il faut étudier la petite sainte, essayer de la comprendre, de la connaître, de retrouver en elle l'esprit d'Élie et réaliser sa pensée en l'aidant dans sa mission. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a besoin de disciples pour répandre et diffuser sa doctrine. Nous lui devons un apport substantiel, un apport de fond. Il faut étudier la petite sainte. Si le ciel la met tellement en avant dans ces années-là, c'est qu'elle a quelque chose à dire à l'Église. Et donc, étudions son message. Et puis, bon, il faudrait parler ensuite, par la suite, de tous les liens avec le Carmel de Lisieux, puisqu'il va devenir visiteur des Carmels de France, et puis déjà par ses prédications, donc il aura des liens très forts avec Mère Agnès, Sœur Geneviève, mais aussi Sœur Marie du Sacré-Cœur. C'est lui qui va demander à Mère Agnès et insister pour que les manuscrits soient publiés dans leur authenticité, et donc il va nommer pour ça le Père François de Sainte-Marie. Il faut noter aussi en 1947, donc pour le 50e anniversaire de la mort de Thérèse, il participe à un colloque, donc, qu'il a participé à l'organisation, à l'Institut catholique de Paris, qui veut vraiment montrer l'actualité du message de Thérèse, et même en vue du doctorat. Et il intitule sa conférence, qui est publiée, Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de la vie mystique. Alors, il y a même des gens qui l'ont dit, mais attendez, n'allez pas trop vite quand même. Alors, lui pensait mettre après, bon, corriger, mettre maître de la vie mystique, mais le provincial des Carmes de Paris lui dit non, non, on laisse docteur de la vie mystique. Dans les textes importants aussi, une retraite en 1957 qu'il prêche à l'Institut. Et nous espérons vivement que ce texte sera publié parce que c'est un très beau texte, plusieurs conférences, toute une retraite qui prêche à l'Institut sur le message de Thérèse, un texte très riche que je citerai plusieurs fois. Il y a bien sûr Je veux voir Dieu, où Thérèse a une place très importante puisqu'il la met au même niveau que Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, ce qui est assez audacieux pour l'époque, et donc notamment le chapitre Conduite de l'âme. Et puis, toutes les conférences qu'il a pu donner dans des retraites, soit à l'Institut, soit à l'extérieur, dans les années qui suivent. Tout à l'heure, dans le texte de 1932, le Père Marie-Eugène disait qu'il fallait retrouver en elle l'esprit d'Élie. Une des convictions du Père Marie-Eugène, c'est qu'on ne peut pas comprendre Thérèse en dehors du Carmel. Voilà ce qu'il dit dans la conférence de 1947. Vérité qui s'impose à l'attention du théologien aussi bien que de l'historien et que nous devons souligner, c'est en devenant carmélite jusqu'au bout des ongles que Thérèse de l'Enfant Jésus est devenue une sainte et une maîtresse de vie spirituelle. pour lire Thérèse, il faut la lire dans la lumière donnée, dans le charisme donné à l'Église par le Carmel. C'est en devenant jusqu'au bout des ongles, c'est en devenant carmélite jusqu'au bout des ongles que Thérèse de l'Enfant Jésus est devenue une sainte et une maîtresse de vie spirituelle. Alors, dans une deuxième partie, comment Thérèse découvre-t-elle la miséricorde selon le Père Marie-Eugène? La connaissance que Thérèse a de la miséricorde repose d'abord sur une expérience personnelle. C'est Dieu qui s'est révélé à elle comme amour et miséricorde. Ce n'est pas le fruit d'une recherche intellectuelle, ni de révélation particulière, mais vraiment dans sa rencontre avec Dieu. Elle dit dans le manuscrit A, au folio 4, « Toute ma vie, le bon Dieu s'est plu à m'entourer d'amour. Mes premiers souvenirs sont empreints des sourires et des caresses les plus tendres. » Et c'est vrai que si Thérèse a découvert la miséricorde et cet amour de Dieu, elle a été à bonne école dans sa famille, avec ses parents, sa mère et son père, dont elle a bénéficié vraiment d'un amour très fort, Thérèse étant la petite dernière après tant de drames. Sa mère vraiment a manifesté beaucoup d'amour à Thérèse, et on sait aussi comment Monsieur Martin, son roi chéri aussi, a eu cet amour de prédilection. Dans les pages 834 et 835 de « Je veux voir Dieu », le père Marie-Eugène résume ce que pour lui sont les étapes principales de cette découverte de la miséricorde. La première communion, la grâce de Noël, la découverte de cette image là qui dépasse de son missel avec Jésus en croix, la conversion de Pranzini, le Carmel, Saint Jean de la Croix, l'acte d'offrande et la blessure d'amour qui le suit. Alors revenons un peu sur ces étapes. Dans « Je veux voir Dieu », il dit que le jour de sa première communion, Thérèse expérimente les débordements unissants de l'amour. Bien sûr que Thérèse a déjà une expérience de Dieu très forte. Elle prie devant l'immensité de la mer, elle fait l'expérience de la grandeur infinie de Dieu. Mais le jour de sa première communion, il se passe quelque chose. Qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme, ce fut un baiser d'amour, je me sentais aimé. Elle expérimente les débordements unissants de l'amour. Un amour qui se donne et qui, en se donnant, unit. Mais l'étape fondamentale pour le Père Marie-Eugène, c'est vraiment cette grâce de Noël 1886, qui va manifester la toute-puissance de transformation de l'amour. Alors comment s'est passée cette grâce de Noël? Vous savez qu'à l'âge de 4 ans, Thérèse perd sa mère, qui va provoquer un trouble psychologique grave et qui va s'amplifier avec l'entrée de Pauline au Carmel. J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Je pleurais d'avoir pleuré. Tous les raisonnements étaient inutiles et je ne pouvais arriver à me corriger de ce vilain défaut. Et pendant 10 ans, Thérèse va être dans cette impuissance radicale. Tout est centré sur elle et elle ne peut pas supporter qu'on ne s'occupe pas d'elle. Et elle est en plus bien consciente de cela. Et elle en souffre. Mais elle n'arrive pas à sortir d'elle-même. Je ne pouvais arriver à me corriger de ce vilain défaut. Alors bien sûr, il y a le sourire de la Vierge Marie, le 13 mai, qui marque une étape dans sa guérison. Mais la grâce de Noël, Thérèse en parle comme de celle de sa complète conversion. Que ce soit dans la lettre au Père Roulant, où elle relie cette étape, ou dans le manuscrit au folio 44. Dans sa lettre au Père Roulant, la nuit de Noël 1886 fut, il est vrai, décisive pour ma vocation. Mais pour la nommer plus clairement, je dois l'appeler la nuit de ma conversion. Jésus me faisait enfant par amour, se faisait enfant par amour, daigna me faire sortir des langes et des imperfections de l'enfance. C'est important, Thérèse, qui va être l'apôtre de l'enfance spirituelle, a pour cela besoin de sortir des langes et des imperfections de l'enfance. Il ne faut pas se tromper sur l'enfance spirituelle. Elle dit la même chose dans le manuscrit. Je ne sais comment je me berçais de la douce pensée d'entrer au Carmel étant encore dans les langes de l'enfance. En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat. Alors comment ça s'est passé? Le Père Marie-Eugène dit, il nous est impossible de le savoir. C'est une grâce intérieure, une touche de fond qui l'a complètement transformé. En effet, quand Thérèse raconte cette nuit de Noël, elle ne dit pas à quel moment le Seigneur l'a touchée. Elle dit cette grâce par les effets qu'elle produit. Et les effets qu'elle produit, c'est cette complète transformation. Elle est complètement transformée. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. Elle sort de cette impuissance radicale dans laquelle elle était. L'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, 10 années d'impuissance, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté. Et comment ça s'est passé? Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse. C'est la charité qui vient la saisir, qui entre dans son cœur. Ce n'est pas une conversion dans le sens elle ne savait pas et elle devient capable d'aimer. C'est elle reçoit la puissance de la charité qui va aimer en elle. Alors, cette grâce de Noël, Père Marie-Eugène était tellement conscient qu'il s'était passé quelque chose d'important qu'il l'a fait étudier par des psychiatres. Et il y a un numéro de la revue Carmel en 1959 où il livre un peu toutes les recherches qui ont été faites sur cette grâce. Nous sommes en présence d'une faveur prodigieuse qui n'a produit aucun choc et que signale uniquement ses fruits sur le plan psychologique et le domaine spirituel. L'amour purifie la volonté, y cicatrise les blessures, colmate les fissures produites par les péchés et ses tendances, et la fortifiant, la libère de toutes les tyrannies des facultés sensibles et la guérit, voire même des tendances pathologiques comme de la mélancolie dont le siège est dans les sens. Thérèse est transformée aussi bien au plan physique, il suffit de voir les photos, les deux photos qui se suivent où on a l'impression qu'elle a pris 7-8 ans d'écart entre la photo où elle est avec ses bouclettes blondes et puis celle avec le chignon, c'est une jeune femme, mais au plan physique elle est transformée, au plan psychologique, au plan de la maturité, elle, au plan intellectuel, elle, alors que on la sort de l'école, on lui met une tutrice et ça marche même pas. Là, maintenant, elle a soif d'apprendre, elle lit. Et puis, vis-à-vis de Céline, sa sœur juste au-dessus, c'est Céline maintenant qui a du mal à suivre, alors qu'avant, c'était l'inverse. Et donc, ce que Thérèse expérimente, c'est que l'amour la transforme. et que Thérèse n'a rien décidé de cela. C'est un fruit gratuit de Dieu. Et elle continue son récit tout de suite avec cette histoire de cette image qui dépasse du missel en juillet. On situe à peu près que c'était en juillet. Et qu'est-ce qu'elle découvre avec cette image de Jésus en croix? C'est les flots de tendresse qui coulent, le sang de Jésus qui coule et personne pour le recueillir. Et Thérèse veut se tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découle. Et en même temps, elle se sent dévorée de la soif des âmes. Qu'est-ce qui se passe? Thérèse découvre que, mais finalement, ce qui s'est passé pour elle, en fait, peut se passer pour tous. L'amour de Dieu veut se donner. Et ils sont trop peu ceux qui viennent recevoir cette divine rosée. La grâce du zèle et la soif des âmes l'a fait pénétrer dans l'amour divin lui-même, pour lui faire expérimenter ses besoins profonds, sa souffrance. L'amour a soif de se répandre et les hommes refusent de le recevoir. Et donc cela ne dépend pas d'abord du monde, cela ne dépend pas d'abord d'une disposition de l'homme, mais d'abord de ce qu'est Dieu lui-même, de la nature de Dieu. C'est la confirmation extérieure de sa lumière intérieure qui vient comme l'établir définitivement dans ses convictions. Elle a découvert Dieu amour, elle en a la preuve, Dieu est amour, Dieu a manifesté son amour pour elle en la transformant complètement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle entend parler de Pranzini. Et donc, ce qui s'est passé pour elle va se passer pour Pranzini. C'est une certitude pour elle. Elle fait demander des messes, mais elle a la certitude que Dieu va le faire. Il ne peut pas ne pas le faire. C'est sa nature. À cette expérience personnelle s'ajoute la conversion de Pranzini, obtenue par sa prière. Et donc, quand elle découvre cette miséricorde qui se donne, eh bien, pour se tenir en esprit au pied de la croix, il faut qu'elle entre au Carmel. Alors au Carmel, on reviendra un peu sur le contexte dans lequel elle entre au Carmel, mais elle va trouver un guide qui va avoir une influence décisive pour elle, c'est Saint Jean de la Croix. Elle écrit dans son premier manuscrit au folio 83 « Que de lumière n'ai-je pas puisé dans les œuvres de notre père Saint Jean de la Croix. À l'âge de 17 et 18 ans, je n'avais pas d'autre nourriture spirituelle. » 17 et 18 ans, c'est donc les premières années de noviciat et de vie religieuse. Sans lui, on ne peut pas comprendre la portée du message thérésien. Un élément d'une importance capitale a manqué à tous ceux qui n'ont pas vu comment Jean de la Croix... cette influence de Saint Jean de la Croix a manqué pour établir la progression spirituelle de la sainte et découvrir la structure intérieure de sa doctrine. Et dans « Je veux voir Dieu », à la page 700, Saint Jean de la Croix a expliqué à elle-même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il nous l'explique à nous aussi, si bien qu'il semble qu'on ne puisse découvrir toutes les merveilleuses profondeurs de la voie d'enfant spirituelle qu'à la lumière du docteur mystique. Et c'est bien dans cette perspective qu'il écrit le chapitre « Conduite de l'âme » qui commence d'abord, dans une première partie, par traiter ce que Saint Jean de la Croix dit de l'espérance et de la pauvreté, et ensuite l'illustration avec la voie d'enfant spirituel. Alors qu'est-ce qu'éclaire Saint Jean de la Croix? Eh bien d'abord... Premièrement, Saint Jean de la Croix va apprendre à Thérèse à apprivoiser la nuit de son âme qu'elle traverse. Vous savez que quand elle entre au Carmel, elle fait l'expérience de la sécheresse. C'est un souterrain dans lequel il ne fait ni froid ni chaud. Ce sont ces années qui sont douloureuses et décisives pour son évolution spirituelle. Dans « Je veux voir Dieu », il écrit « En cette période décisive de ses ascensions, elle y découvrait la description rassurante de la pénombre et du vide paisible dans lesquels elle vivait. La confirmation que c'était là mode d'agir divin, silencieux et profond, et que sur cette pauvreté, elle pouvait appuyer avec confiance l'ardeur immense de ses désirs d'amour. » Saint Jean de la Croix, par son enseignement sur la foi, l'aide à apprendre, voilà, à marcher dans l'obscurité. Mais surtout, il va expliciter ses lumières sur la miséricorde. Pour le Père Marie-Eugène, il explicite et confirme Thérèse dans sa découverte de la miséricorde. Il dira en 1957 « Je crois qu'on n'exagérera jamais l'influence de notre Père Saint Jean de la Croix par l'élan donné à sa vie spirituelle. » Et dans la retraite de 1932, donc il prêche aux premiers membres de Notre-Dame de Vie, Thérèse découvre l'attribut divin qui la guide, la miséricorde, et le désir ardent que l'amour a de se répandre dans les âmes. Dans la conférence de 1947, le cantique spirituel de Saint Jean de la Croix et la vie flamme confirment ses intuitions obscures sur l'amour et sur son œuvre dans les âmes. Et dans « Je veux voir Dieu », les descriptions de l'amour qu'elle trouve en ses écrits, ce quelque chose de puissant, d'ardent, de délicat, de divin qui s'en dégage, tout explicite lumineusement à la petite sainte ses intuitions et confirme joyeusement ses certitudes. Il est donc bien vrai que l'amour divin est infini, qu'il veut se répandre, qu'il se répand en effet sur ceux qui se livrent à lui, dans une foi nue et dans une espérance pure, parce que pauvre de tout. Alors on le sait, ce n'était pas tout à fait le contexte qui l'entoure. Cette connaissance de l'amour avait été obscurcie, voilée par le jansénisme. Le jansénisme avait amené les âmes à la religion du respect. Et cette religion reste déiste, mais pas profondément chrétienne, parce qu'elle ne va pas à la vie intime de Dieu. On croit en Dieu, mais on n'a pas découvert cette vie de Dieu. Thérèse éprouve d'une façon presque aiguë l'opposition de son milieu, l'opposition entre sa lumière, ses exigences, et ce qu'elle voit pratiquer autour d'elle. On fait ses comptes avec Dieu. Alors en quoi consiste cette découverte de Thérèse? Qu'est-ce qu'elle découvre? Quelle est la nature de la miséricorde pour Thérèse? D'abord, c'est un recentrage sur Dieu. La miséricorde ne se comprend pas d'abord à partir de l'homme, mais de Dieu lui-même. Dieu est amour. Révéler Dieu amour aux âmes est le point central et essentiel de la mission de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle qui a osé dire « À moi, il a donné sa miséricorde infinie. » Et donc c'est important parce que souvent quand on parle de la miséricorde, on commence par parler du péché. Or, ce que le Père Marie-Eugène dit, c'est que pour Thérèse, c'est pas d'abord à partir de l'expérience du péché qu'elle découvre la miséricorde, mais à partir de Dieu. Sa spiritualité est une spiritualité uniquement théologale, basée sur la nature de Dieu, c'est ce qui en fait l'excellence. Et qu'est-ce qu'elle découvre en Dieu? Qu'en Dieu, il y a l'être, mais il y a la vie. Ce qu'il reprochait au jansénisme d'être une religion déiste, mais pas profondément chrétienne, parce qu'elle ne va pas à la vie intime de Dieu. Thérèse a découvert que Dieu est le Dieu vivant. Elle a découvert non seulement la nature et la transcendance de Dieu, qui exigent de notre part l'adoration, car Dieu est l'être parfait, infini, le Créateur, mais elle a surtout découvert la vie qui est en lui, cette vie qui est amour. Et alors, pour exprimer cette vie, il va reprendre cette expression de Saint-Denis l'Aréopagite. Il est le bonum diffusivum sui, le bien diffusif de lui-même. À la base de cette découverte de la miséricorde chez Thérèse, il y a une expérience de Dieu qui est le bien diffusif de lui-même, le brasier ardent, ce brasier qui brûle sans consumer, l'expérience de Moïse. Le mystique ne peut dire qu'une chose, j'ai senti en Dieu le bien diffusif, l'amour. C'est la définition que nous donnent Moïse, Saint Jean, Saint Paul, tous les grands mystiques. Et dans Je veux voir Dieu, l'amour est toujours en mouvement pour se donner. Il ne saurait cesser de se répandre sans cesser d'être lui-même. Bonum diffusivum sui. Donc la miséricorde n'est pas un attribut de Dieu, elle est Dieu lui-même, c'est la nature de Dieu lui-même. Il est amour, il est miséricorde, il est le bien qui se donne. Dans la retraite 1957, Dieu est amour, qu'est-ce à dire ? L'amour est le bien diffusif de soi. C'est le bien en mouvement pour se donner aussi parfaitement que possible, entraînant avec lui toutes les richesses pour pénétrer dans l'être aimé, pour vivre en lui. Et là, par cette pénétration qu'il fait de lui-même, de ses richesses, créée entre l'être aimé et lui, entre la source d'où procède l'amour et l'être aimé, des liens d'union qui opèrent en même temps une transformation. Saint Jean de la Croix dit dans la vie flamme, chose merveilleuse, l'amour ne reste jamais oisif. Il est dans un mouvement continuel, comme la flamme qui jette continuellement ses jets de tous côtés. Et ceux qui assistaient aux prédications du Père Marie-Eugène étaient toujours marqués par sa manière de parler de Dieu. Dans les retraites sacerdotales, beaucoup de prêtres disaient, mais on avait l'impression qu'il voyait Dieu et qu'il nous disait ce qu'il voyait. Et quand il parle, voilà, de la génération du Verbe et de l'aspiration de l'Esprit, cela ne se produit pas dans le temps à un moment donné, cela a toujours été, Dieu a toujours été ainsi, il n'a pas commencé. Dieu engendrera toujours, l'Esprit Saint jaillira toujours, l'aspiration d'amour jaillira du Père et du Fils d'une façon incessante, toujours, toujours. Et Dieu est toujours heureux, Dieu est infiniment heureux, le voilà le bonheur de Dieu. Et donc pour lui, ce que Thérèse a découvert, c'est le mystère trinitaire. Thérèse a eu la hantise du mystère trinitaire. Permettez-moi de vous dire quelques mots à ce sujet. Quand elle a parlé du mystère trinitaire, on a dit « Comment cette petite parle du mystère trinitaire? Ce n'est pas possible. » Alors dans sa découverte du mystère trinitaire, dans ses descriptions, on a supprimé deux personnes. Pensez donc qu'elle trouve l'enfant Jésus, ça va bien, qu'elle trouve la Sainte Vierge, mais qu'elle trouve les personnes divines. Évidemment, ceux qui ont fait cela étaient un peu tributaires des préjugés de notre époque. Le mystère trinitaire est beaucoup trop haut. Mais abdiquons ces jugements, ces préjugés, et n'hésitons pas à aspirer à cela. Et cet amour qui est diffusif, c'est la source de toutes les opérations de Dieu. Et donc la création est finalement une œuvre de la miséricorde. Cet amour a été le principe de la création. Dieu a tout fait par amour parce qu'il est amour. Il ne peut faire autrement. Pourquoi a-t-il créé ? Pour s'épancher, pour avoir des êtres à qui il puisse se donner. Et alors c'est là qu'arrive le péché. Le péché va être un révélateur de cette gratuité de l'amour en Dieu. Souvent, on regarde la miséricorde à partir du pécheur, Dieu qui se penche vers le pécheur. On dirait presque qu'il faut le péché pour qu'il y ait la miséricorde. Le Père Marie-Eugène, lui, la regarde à un autre niveau, de la nature même de Dieu. Tout cela est dans la ligne de la nature de Dieu, de sa vie, de son besoin d'expansion. Facilement, quand nous regardons l'amour de Dieu, nous restons dans des lois purement naturelles. Nous restons sur le plan de la sensibilité, de la pitié. Or, ici, nous sommes dans l'essence de Dieu, dans la nature de la vie de Dieu, dans une exigence de sa nature elle-même qui a besoin de se répandre et trouve dans son expansion sa joie et son bonheur. Par conséquent, dans l'incarnation, la rédemption, l'Eucharistie et l'Église, Dieu va trouver une joie plus grande que dans la création de l'homme et de l'ange. Cette miséricorde, en effet, lui permet de s'épancher au-delà de toutes les mesures, de toutes les exigences. Et son bonheur est à la mesure de son expansion, de la diffusion du bien qui est en lui, de l'amour qu'il donne. L'homme, déjà par lui-même, n'avait pas le droit à cet amour. Mais par le péché, en plus, il ne le méritait même plus, il méritait la condamnation. Et donc l'amour qui continue de se donner, la rédemption, c'est vraiment le fruit de cette gratuité de l'amour qui se donne. Quand Dieu sort pour créer, c'est par amour. Quand Dieu rencontre le péché, quelle est sa réaction? Il ne peut agir que tel qu'il est, et c'est la miséricorde. L'amour en action qui descend sur le péché. Le plan de la rédemption est gouverné par l'amour sous la forme de la miséricorde, parce que nous sommes pécheurs. Ce n'est pas, en 65, ce n'est pas le péché qui glorifie Dieu. Ce qui le glorifie et lui fait plaisir, c'est de pouvoir se donner et se donner gratuitement. Voilà ce que découvre Thérèse. Ce qui réjouit Dieu, c'est de pouvoir donner au-delà de la justice, gratuitement, selon son besoin à lui et les exigences de sa nature qui est amour, et non pas selon les mérites. Dieu est libre de ses dons, il donne quand il veut et comme il veut. Est-ce que Dieu peut cesser d'être bon? Non. Mais il peut cesser d'être prodigue de ses dons. Pourquoi? Nous ne le savons pas, parce qu'il l'a voulu. Il peut donner davantage à l'un qu'à l'autre, parce qu'il le veut. Et donc, dans la manière de parler de la miséricorde, respectons la souveraine liberté de Dieu. Il peut cesser d'être prodigue de ses dons. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Parce qu'il l'a voulu. Alors on pourrait se dire, mais oui, mais à ce moment-là, quelle est la part de l'homme? Puisque finalement, il ne faut regarder que Dieu qui se donne. Alors la part de l'homme, eh ben, c'est de permettre à Dieu d'être Dieu. De lui permettre d'aimer. Et comment Thérèse fait cela? En s'offrant à l'amour miséricordieux. Voilà la science d'amour de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a connu Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit au sujet de son acte d'offrande? Votre amour miséricordieux, n'en a-t-il pas besoin lui aussi? Elle parlait de l'offrande à la justice. De toutes parts, il est méconnu, rejeté. Les cœurs auxquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures leur demandant le bonheur avec leur misérable affection, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini. Acceptez l'amour de Dieu. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Thérèse ne s'offre pas à l'amour parce que Dieu en a besoin. Mais parce qu'il faut rajouter quelque chose à Dieu, non. C'est parce que l'amour veut se donner, parce que Dieu veut être Dieu. Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant comme victimes d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Et dans le manuscrit B, peu de cœur, il trouve peu de cœur qui se livre à lui sans réserve, qui comprenne toute la tendresse de son amour infini. Le père Marie-Eugène commence en 1925. Oui, Thérèse connaît l'amour et la miséricorde. Elle connaît expérimentalement Dieu, son besoin d'aimer, sa soif de se répandre. Elle a étudié pendant ses oraisons le caractère du bon Dieu et elle a vu où cette folie d'amour l'a conduit. Dieu aime tant qu'il a de la joie à donner. Dieu aime tant qu'il souffre de ne point donner. Comment Dieu peut-il avoir des besoins? Comment Dieu peut-il souffrir? Sinon, parce que c'est au niveau de sa nature, bien sûr qu'il n'y a pas de souffrance en Dieu, mais sinon, voilà, c'est cet amour comprimé, comme dit Thérèse, méprisé, c'est du côté de l'homme qui manque quelque chose. Ce n'est pas pour être sainte, ce n'est même pas directement pour le donner aux autres que Thérèse s'offre à l'amour, mais pour satisfaire le bon Dieu. Son offrande est théologale. Thérèse ne regarde que Dieu et elle vit de cet amour. Elle veut contenter le bon Dieu, lui faire plaisir, lui permettre d'aimer. Ce n'est pas pour être sainte. C'est vraiment, voilà. C'est pour que Dieu soit Dieu et qu'elle soit à sa place. Dans « Je veux voir Dieu », à la page 37, « Quelle ne sera donc pas la joie de Dieu lorsqu'il trouvera une âme qui lui laisse toute liberté et en qui il peut se répandre selon toute la mesure qu'il désire ?» Les confidences faites par notre Seigneur à certains saints nous laissent deviner cette joie de Dieu. Quand on voit ce que l'amour a fait en Thérèse, on comprend que c'est le chemin. Et alors, puisque la miséricorde, c'est le don. Le père Marie-Eugène va dire que quand Thérèse s'offre à la miséricorde, elle s'offre à l'Esprit Saint. Il le dit dès 1923. Thérèse s'offre à l'amour miséricordieux et le ciel agrée son offrande. Elle sentit déborder en son âme les flots de la tendresse infinie. L'esprit d'amour avait pris possession de son cœur. Et il dit, l'amour, c'est-à-dire l'Esprit Saint, s'est montré à part Helmonial. À Lisieux, il s'est donné à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour de là rayonner sur le monde. En 1959, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est un acte d'offrande à l'Esprit Saint. Sa petite voix est le chemin qui conduit à la fournaise d'amour de l'Esprit Saint. Et comment se fait-il que dès 1923, il dit cette parole, alors que quand même l'Esprit-Saint n'a pas tellement le cœur de la théologie de l'époque? Mais parce que pendant son noviciat, il a fait une expérience très forte de la personne de l'Esprit-Saint. Il a raconté dans les années 60 que voilà, c'était un feu d'artifice. Il se disait, mais je vais mourir, quoi. Et il dit que toute sa vie a été basée sur la connaissance de l'Esprit-Saint. Et voilà, de cet amour qui se diffuse. Et donc ce rapprochement en disant que la miséricorde, l'amour, c'est l'Esprit Saint, ça ouvre des perspectives. Nous sommes loin, évidemment, d'une spiritualité d'ascèse qui cherche à rectifier ses actes, d'une spiritualité qui cherche à augmenter ses mérites, d'une charité qui cherche à ordonner son effort pour développer sa charité et son union avec Dieu. Non, sa spiritualité, sa doctrine spirituelle a pour but de permettre à Dieu de donner, de nous mettre dans les dispositions de créer en nous la réceptivité qui correspond aux besoins que Dieu a de se répandre. Cette petitesse et cette pauvreté qui attirent Dieu doivent évidemment être accompagnées d'un effort. Parce que bien sûr, la miséricorde se donne, mais j'ai une part. Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté. Thérèse n'est pas restée passive pendant 10 ans. Elle était dans l'impuissance, mais elle a tout fait. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, ne voyant aucun résultat. Et c'est ça la part de l'homme. Ce n'est pas de chercher le résultat, c'est de chercher à faire. Mais le résultat, c'est la miséricorde qui le donne quand elle veut et comme elle veut. C'est ce très beau texte rapporté par Sœur Marie de la Trinité dans Une novice de Sainte Thérèse, que le Père Marie-Eugène situe justement dans cette part de l'homme, dans le chapitre Conduite de l'âme. Vous me faites penser au tout petit enfant qui commence à se tenir debout, mais qui ne sait pas encore marcher. Voulant absolument atteindre le haut d'un escalier pour retrouver sa maman, il lève son petit pied afin de monter la première marche. Donc il veut aller en haut. Il lève son pied. Peine inutile, dit Thérèse. Inutile. Il retombe toujours sans pouvoir avancer. Conséquence, eh bien, soyez ce petit enfant. Par la pratique des vertus, levez toujours votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. Mais attention, et ne vous imaginez pas que vous pourrez monter même la première marche. C'est pas ça qui compte. Non, mais le bon Dieu ne demande de vous que la bonne volonté. Du haut de l'escalier, il vous regarde avec amour. Un jour vaincu par vos efforts inutiles, il descendra lui-même et vous prenant dans ses bras, vous emportera pour toujours dans son royaume où vous ne le quitterez plus. Et le Père Marie-Eugène commente dans « Je veux voir Dieu » « Cet enfant n'arrivera certainement pas à gravir l'escalier qui est celui de la perfection. Dieu seul, en effet, peut faire cet ouvrage et on ne peut l'attendre que de lui. » Vérité que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus proclame parce qu'elle l'a expérimenté. Son attitude héroïque peut donner le change, mais elle tient à mettre les choses au point. Les fruits ne sont que ceux de la miséricorde. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À croire, à aimer et à espérer. La foi. Que fait l'enfant près de sa mère? Il la regarde. Il a recours à elle en toutes circonstances. Elle est son oracle, son refuge. Il se tient près de sa mère. Près d'elle, il n'a peur de rien. Sa mère, c'est tout. Et Thérèse se tiendra aussi près de Jésus. Elle le regardera constamment. Jésus sera tout pour elle. Être près de lui lui suffit. Et donc, il faut se tenir auprès du bon Dieu dans une intention théologale. Je n'y suis pas pour moi, mais pour lui. Pourquoi faire oraison? Non pas pour nous, mais pour Dieu, parce que nous sommes ses enfants, parce que notre grâce est filiale. Et si nous sommes fils et filles, notre place est près de notre Père. Je vais voir le bon Dieu parce que cela lui fait plaisir, parce qu'il a de la joie à me voir. Et c'est vrai, ce ne sont pas des mythes. Cette attitude repose sur la nature de Dieu, elle est tout à fait théologale. Encore une fois, je n'y vais pas pour recevoir, mais pour lui. Thérèse a pour seul motif de faire plaisir au bon Dieu. La charité, ma vocation, c'est l'amour. 1895, 2 ans avant sa mort, Thérèse découvre sa vocation. Et le Père Marie-Eugène commente « Cette parole de Sainte Thérèse, ma vocation c'est l'amour, est surnaturelle et naturelle. C'est tout son être qui devient amour, à tous les plans. Aimer comme notre cœur est bien fait pour cela. L'amour sera tout dans sa petite voie, il sera le fondement, le motif, le stimulant, le but et le terme. Thérèse ne sait qu'aimer, elle ne veut qu'aimer. » Et pourquoi elle aime? Et pourquoi elle veut aimer? Eh bien, parce que il s'agit de ne pas arrêter ce torrent de l'amour de Dieu qui veut se donner. Et donc, c'est permettre à Dieu de continuer de se donner par elle. Elle va aimer, mais c'est Dieu qui va aimer par elle. Thérèse aimera, ne voudra et ne saura qu'aimer. Elle s'immolera, elle sacrifiera tout. Elle fait de sa vie un acte, un soupir d'amour. Elle se réduit en parfum d'amour. Et cela dans deux directions. Le devoir d'État, l'amour est délicat et d'une certaine façon, il se venge, du moins dans sa pensée à elle, de ce qu'il ne fait pas de choses extraordinaires en faisant très bien l'ordinaire. Qu'est-ce que nous allons pouvoir dire de cette petite sœur qui vient de mourir ? Dit une sœur à la récréation qui suit la mort de Thérèse. Et la charité fraternelle. Nous serons jugés sur l'amour, dit saint Jean de la Croix. Et le père Marie-Eugène précise, l'amour sur lequel nous serons jugés est celui que nous aurons donné à Dieu dans nos frères. Et alors on connaît dans son dernier manuscrit toutes les évocations, les exemples concrets qu'elle donne d'aimer. Cette sœur qui a le talent de lui déplaire en tout, pour qui elle fera le plus charmant sourire, et cette sœur quand même qui écrira un livre sur la charité que Thérèse a eue pour elle. Donc cet amour qui va jusqu'à l'héroïsme. Héroïsme surhumain dans le devoir d'État comme dans l'amour du prochain. Et en même temps, Thérèse dit, plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera. Alors comment lier ces deux affirmations qui semblent contradictoires ? C'est l'espérance. Ouh là là. Nous confondons si facilement la sainteté avec l'héroïsme. Nous voulons être des héros, c'est-à-dire assurer le triomphe des forces physiques ou des forces intellectuelles, réussir à monter les marches. Dans le combat, le héros, c'est celui qui arrive à vaincre. Le saint, c'est celui qui laisse triompher Dieu en lui. Voilà la différence. Le héros, c'est celui qui arrive à vaincre. Le saint, c'est celui qui laisse triompher Dieu en lui. L'acte de confiance parfait qui obtient tout, c'est-à-dire Dieu et l'union parfaite, jaillit des profondeurs de la pauvreté. Sainte Thérèse ne se lasse pas d'insister sur la nécessité de ces deux dispositions, de montrer la fécondité de leur union. Je voudrais vous lire un extrait de la retraite 1959, d'une conférence plutôt qu'il donne en 1959. Ne pas croire que l'acceptation de l'impuissance, le recours à Dieu, on le trouve sur la table et que ça va tout seul. Non. C'est le fruit d'une longue patience accompagnée de multiples impatiences. Pour être convaincu de son impuissance, il faut l'éprouver. Ne croyez pas que vous allez être tous immédiatement des petites saintes Thérèse de l'enfant Jésus. Quand on a senti son impuissance à tout bien, quand on en est bien convaincu, on finit par l'accepter. Après être resté replié sur soi, après avoir cherché des consolations, à ce moment-là, on recourt au bon Dieu. Tout cela, c'est une longue patience. Il faut l'avoir pratiquée de longues années. Ne pas se décourager au début. Demandez au bon Dieu la grâce de demander l'amour de la pauvreté. La pauvreté, je ne l'aime pas, dites-vous. Vous l'aimerez dans 15 ans, dans 20 ans. En entendant, supportez-la. Faites effort pour appeler le bon Dieu. Je ne sens pas d'attrait, faites sans attrait. Bientôt, ces deux dispositions feront une synthèse dans laquelle on réalise un peu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais alors, pourquoi cette patience, cet exemple de charité ? Eh bien, parce que Dieu se donne. Quand on admire sa patience, Thérèse répond « Ce n'est pas la mienne, on se trompe toujours. Je n'ai pas eu une minute de patience. » Et pourtant, elle l'était. Mais parce que c'était l'amour en elle. Un petit trait de sa vie illustre cela. Voyant sa grande patience, une novice se disait « Mon Dieu, comme elle m'agace, elle est si patiente !» Alors un jour, elle la provoque toute une matinée, mais sans arriver à lui faire perdre patience. À la fin, la novice se jette à ses pieds « Mais comment faites-vous pour être si patiente ?» Et Thérèse lui répond « Au début, j'étais comme vous, mais un beau jour, le bon Dieu m'a prise et m'a posée là. Voilà tout son secret. Elle attend tout. » Toute sa perfection et ce geste de Dieu qui la prend et la pose là. Bon. Eh bien voilà. Non, je ne suis pas une sainte, je n'ai jamais fait les actions des saints, je suis une toute petite âme que le bon Dieu a comblée de grâce, voilà ce que je suis. Ce que je dis, c'est la vérité, vous le verrez au ciel. Alors pour conclure, je cite juste un ou deux passages, d'abord un de 1925. L'histoire d'une âme est imprimée. Cette simple vie convertie transforme. On la lit et on éprouve cette impression étrange qu'auparavant, on ne connaissait pas Dieu. On n'avait pas compris le sens profond du culte qu'il exige de nous. Cette vie parle le suave et élégant langage du cœur de Jésus. Elle dit aux âmes la miséricorde infinie dont la Trinité sainte est le foyer. Et en 1947, la nouveauté est en ceci, que Thérèse de l'Enfant Jésus a vu le bon Dieu et le christianisme avec des yeux purs et neufs d'enfant, qu'elle a réalisé avec une logique rigoureuse et absolue ce que son regard d'enfant avait découvert, et qu'elle a ensuite exprimé avec une simplicité, une sincérité candide, qui sont encore d'une enfant. Bon. Désolé pour cette course à travers ces textes, mais si on retient... Et bon, on va finir sur ce qu'on a trouvé.